France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, faut-il faire des compromis pour avoir la paix, en particulier dans le couple, le compromis, si souvent désirable et si difficilement atteignable. Nous verrons avec Philosophie Magazine que la résolution pacifique du conflit n'a rien d'évident quand elle percute nos intérêts ou nos principes. Bref, comment trouver un terrain d'entente, le chemin de la concorde sans compromission et sans trop se sacrifier. Élément de réponse avec nos invités. Êtes-vous un adepte, une adepte du compromis dans tous les pans de votre vie et en particulier avec votre moitié? Standard ouvert au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
Je t'aime énormément. Seulement je suis navré, je ne peux pas venir vivre à Londres sans Ben.
Je sais que ça te serait réellement difficile.
Et toi, tu peux pas envisager de venir habiter ici? Ça serait sympa, puisque t'avais prévu de le faire. Ça faciliterait les choses. Je sais que même si j'ai été un triple idiot en faisant ce que j'ai fait, je me dis que le mieux, c'est que toi, tu viennes ici pour que nous puissions arranger toute cette histoire ensemble.
Je veux bien.
Tu veux bien? Ça veut dire que t'es d'accord?
Oui.
Oh, Émilie, tu sais que c'est fantastique. Ça va être formidable, je te jure. Il faut que tu saches qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout entre Rachel et moi. C'est toi que j'aime.
Très bien. J'accepte de venir à New York et on va essayer de tout arranger.
Oh, je suis content. C'est fantastique.
Tu t'engages à ne plus jamais revoir Rachel. C'est la seule condition.
Compromis entre les personnages de Ross et Emily à propos de Rachel dans la série américaine Friends. Bonjour Cédric Anchalbert.
Bonjour Ali.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint à Philosophie Magazine et vous proposez un très bon dossier intitulé « Faut-il faire des compromis pour avoir la paix dans tous les pans de la vie, de la société et dans le couple ?» Notamment, nous y reviendrons, on s'intéresse aux compromis dans le couple avec nos deux autres invités. Bonjour Cécilia Como.
Bonjour Ali.
Habituée de cette émission, vous êtes psychanalyste, sexologue et thérapeute de couple, on vous doit « Le couple parfait n'existe pas », publié en 2022 chez Flammarion. Bonjour Claude Parizeau.
Bonjour Ali.
Vous êtes expert en thérapie de couple, vous êtes l'auteur de « Réenchanter son couple » chez Erol. Cédric Anchalbert, le Robert, indique que le compromis, c'est l'arrangement dans lequel on se fait des concessions mutuelles, synonyme accord, transaction. Dans notre pays, dans le domaine politique notamment, l'idée de compromis ne semble pas vraiment convaincre au-delà des pétitions de principe et des vœux pieux.
Vous le soulignez déjà en ouverture, ce qui est intéressant avec le mot de compromis, c'est qu'il s'adresse à la fois au couple, à la situation de politique intérieure, à la situation géopolitique, on peut l'utiliser dans tous ces domaines. Ensuite, dans la politique intérieure, ce qui est intéressant de voir, c'est que le compromis a un lien avec effectivement la promesse, la compromission et le fait de s'engager à deux. Alors la difficulté en politique, c'est de trouver à la fois un accord dans lequel on se reconnaît, trouver un accord de paix en quelque sorte, sans renier ses positions idéologiques. Alors cette position d'équilibre, cette ligne de crête, elle est de fait difficile à tenir.
Mais pourquoi le compromis a mauvaise presse dans notre pays? Vous le disiez, le compromis sans la compromission. Expliquez-nous peut-être la différence entre le compromis et la compromission. Mais d'abord, pourquoi le compromis a mauvaise presse en France?
Le compromis a mauvaise presse parce qu'il est soupçonné de mettre entre parenthèses nos valeurs, nos idées, et au final de vouloir la paix. Alors c'est aussi ce qui nous intéressait dans le titre qu'on a choisi pour Philosophie Magazine. Faut-il faire des compromis pour avoir la paix? Il y a deux façons de l'entendre. Il y a la première, avoir la paix, comme on dit quand on met les enfants devant la télé. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas très bien, mais de temps en temps, on est contraint de le faire, alors on les met devant la télé, et puis on a la paix pour un instant. Bon, ça, c'est le compromis pourri, en quelque sorte. C'est celui qu'on choisit par défaut, parce qu'on n'a pas vraiment trop d'autres options. Et puis, il y a le compromis honnête, celui dans lequel on fait des concessions mutuelles pour parvenir à un terrain d'entente mutuel, en quelque sorte. Alors, il y a deux façons d'entendre le compromis à partir de là. La première, c'est comme un arrangement avec soi, une forme de reniement opportuniste dans lequel on met un petit peu ses idées de côté pour être tranquille pour un instant.
Ça, c'est la compromission.
C'est la compromission, c'est le compromis pourri, celui qui de toute façon ne va pas tenir très longtemps et qui met en jeu la paix. On sait que ça va être fragile, précaire. Et puis il y a l'autre façon d'entendre le compromis comme un arrangement, un engagement mutuel qui s'engage, mais avec autrui et pas avec soi-même. C'est peut-être là où il y a une différence entre le compromis et la compromission. La compromission se fait avec soi-même, le compromis se fait avec autrui.
On comprend bien la différence entre le compromis et la compromission, mais est-ce que le compromis, c'est la même chose que le consensus ?
Alors non, parce qu'il y a dans le compromis l'idée qu'on n'a pas de terrain d'accord initial, c'est-à-dire que le compromis se fait dans un climat de désaccord, de discorde, là où le consensus finalement présuppose ou suppose une entente mutuelle. On n'a pas besoin vraiment de discuter quand on a un consensus, on est d'accord a priori, donc l'accord est déjà là en quelque sorte.
C'est-à-dire que le compromis reconnaît qu'il y a un différent, un désaccord, des dissensions.
Oui, exactement, et c'est un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur qui le dit. Il dit « le compromis est ce qui empêche la société de tomber en morceaux ». Mais dans un cadre où il n'y a pas de super règles pour résoudre les conflits. C'est-à-dire que c'est dans une société pluraliste, où on n'est pas d'accord sur ce que le bien signifie, peut-être même sur ce que la justice signifie, qu'il faut négocier, trouver des sujets sur lesquels on peut ou pas s'entendre, pour avancer progressivement et peut-être définir à terme ce qu'est le bien, ce que l'est juste pour une société pluraliste.
Puisqu'il y a différents désaccords, dissensus, le compromis passe donc par le dialogue ou la négociation. Et ce qui est intéressant dans le compromis, c'est autant le résultat que le chemin pour y parvenir.
Effectivement, alors c'est l'intérêt de ce terme qui donc est très polysémique, on le verra au cours de cette émission, j'espère ne pas perdre les auditeurs, mais il y a effectivement l'idée que le compromis c'est à la fois une méthode, c'est la façon par laquelle on parvient à un terrain d'entente, et c'est en même temps l'accord lui-même, c'est-à-dire un accord de compromis, c'est l'accord qui a été négocié entre des parties et qui permet de trouver une espèce de juste mesure, mais qui ne peut pas se départir du chemin qui a précédé pour y parvenir, parce que c'est ce chemin qui a permis de trouver à la fois les sujets sur lesquels on n'était pas prêt à se renier, et en même temps, les sujets qu'on pouvait peut-être infléchir ou sur lesquels on pouvait là avoir un petit pas de côté par rapport à notre position initiale.
Cédric Angelbert, dans une société polarisée, hystérisée à l'extrême, c'est un vœu pieux.
Alors, je crois pas que ce... Non, je crois pas que ce soit un vœu pieux.
Bah, d'abord, je suis trop pessimiste.
Alors, effectivement, peut-être qu'on l'entend beaucoup trop et qu'on le voit pas assez, et que, notamment depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est un terme qui est sur toutes les bouches et qui hystérise un petit peu le débat. Certains se disent « je vais m'y perdre, je vais me corrompre là-dedans ». D'autres l'appellent comme un terrain d'entente un peu illusoire, parce qu'on sait que ça demande de faire des compromis qui sont des compromissions. Et puis on le voit aussi d'un point de vue géopolitique. C'est vrai qu'on l'entendait dans l'émission, dans le flash info juste avant. Aujourd'hui, Poutine appelle au compromis, Trump appelle au compromis, mais ça ressemble à un bras de fer plus qu'à un compromis. En réalité, quand on n'a pas le choix des armes, en quelque sorte, et quand Zelensky est acculé à donner une bonne partie de son territoire ou une bonne partie de sa richesse contre une paix qu'il sait précaire parce que elle est à la faveur des plus puissants, on ne peut pas parler dans ces cas-là de compromis.
Alors, le couple ressemble parfois à un bras de fer, Cécilia Cumo, Claude Parizeau. Le couple et le compromis, c'est une longue histoire.
Oui, et puis c'est vrai que le compromis n'a pas bonne presse non plus dans les couples. Alors, parce qu'il est entendu... Un peu comme dans la définition, je crois que c'est dans le dictionnaire de l'Académie française, comme une transaction. Et c'est vrai que si le compromis est difficile, j'entends l'argument de la polarisation, mais je crois aussi que l'argument d'une société qui est devenue extrêmement centrée sur l'individu, parce qu'on n'est pas des Grecs anciens, et c'est là où ça coince en fait, c'est que moi d'abord, et donc c'est vrai que quand j'utilise ce terme, je comprends que ça va, que ça va coincer. Alors que, étrangement, utiliser un synonyme comme arrangement, passe mieux. Et en fait, je crois que ça passe mieux, l'arrangement, parce que dans l'arrangement, c'est ce qui m'arrange moins. C'est-à-dire, je ne suis pas perdante. On n'est pas dans du sacrifice. Et donc, je peux entendre l'idée qu'il faut s'arranger. En revanche, c'est compliqué le compromis, et c'est compliqué le compromis même avant de vivre à deux. Hein, puisqu'hier soir, je finissais ma consultation avec une jeune fille de 26 ans qui m'explique qu'alors qu'elle est bien amoureuse de son copain depuis 4 ans, et il était décidé qu'ils vivent ensemble. Et puis finalement, elle m'a dit non. Et quand je lui ai dit, ah bon, pourquoi ? Elle m'a dit, bah, parce que j'ai pas envie de compromis et de contraintes. Je suis pas prête. Donc voilà, donc on voit bien que, et a fortiori, le compromis pour la paix, là, ça appelle autre chose. Ça veut dire qu'il y a quand même un évitement du conflit et un évitement de la discussion, parce qu'il y a des fois où il n'y a pas de compromis, et puis on reviendra sur ça, parce que le compromis pour la paix devient très vite une dette et pas un don. Et on en a parlé avec les ex qui sont haineux et en colère, oui, qui ont une dette, qui trimballent une dette.
Claude Parisot.
Oui, c'est le mot compromis, en fait, moi je ne l'utilise plus.
Pourquoi ?
En couple. Pourquoi ? Parce que le mot compromis, même moi, quand je faisais des compromis, je perdais une partie de moi, je la tenais pendant quelques temps, et à un moment donné, ça ressortait de toute façon. Donc, moi je parle d'entente, j'ai entendu aussi, c'est des dialogues où on va voir en dessous de ce qu'il y a, de la lutte de pouvoir, parce que sinon, dans un compromis, celui qui est le plus persuasif dans la relation de couple, par exemple, il va toujours vouloir avoir le dernier mot, et on va essayer d'avoir le dernier mot, et on ne va pas vraiment écouter l'autre. Donc, l'apprentissage, c'est d'apprendre à écouter pour entendre l'autre, non pas pour répondre, déjà. Et c'est tout un cheminement. Parce que sinon, la guerre, elle continue. Et la guerre dans les couples, hein, pour moi, ça ressemble... Je fais souvent le parallèle avec ce qui se passe. C'est-à-dire, on fait la guerre dans les couples, mais si on ne la résout pas à l'intérieur de nous, il y en a qui vont le faire à plus grande échelle. Et c'est ce que font, je pense, nos chefs d'État.
Cédric Angelbert.
Oui, alors je ferai attention, je ferai une défense du compromis. Et j'essaierai de le sauver malgré tout. Avec cette idée que c'est vrai que quand même le compromis induit l'autre. Il y a la présence de l'autre dans le compromis, là où dans l'arrangement peut-être c'est plus effectivement avec soi-même. Et donc je ferai cette différence-là, et je pense qu'en d'un point de vue politique du moins, alors peut-être que dans le couple on pourra en reparler, mais il y a quand même la nécessité d'intégrer l'autre dans la conscience qu'on va devoir pas faire uniquement des compromis avec soi-même.
Et nous verrons quels sont les principaux freins au compromis dans le couple. Bonjour Gwenaël Boulet.
Bonjour.
Rédactrice en chef de Poppy et de Pomme d'Api. Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent dans une vingtaine de minutes?
Bah écoutez, moi je vais être en mode de coaching, la preuve par l'exemple. Si j'ai réussi à faire un certain nombre de compromis, alors mon mari ne vous dirait pas assez, bien sûr, mais oui, vous pouvez y arriver.
France Inter.
On m'a dit, le secret du couple, c'est de faire des compromis.
Grand bien vous fasse.
Eh ben, je vous souhaite une excellente soirée, madame. Moi, je m'en vais par là-bas, faire exactement ce que j'ai envie de faire.
Allez, réveille.
Et ce matin, faut-il toujours faire des compromis pour avoir la paix, notamment dans le couple? C'est notre question avec le mensuel Philosophie Magazine. Tiens, écoutons la première ministre Elisabeth Borne en 2022 lors de son discours de politique générale.
Les Français ont élu une assemblée sans majorité absolue. Ils nous invitent à des pratiques nouvelles, à un dialogue soutenu, à la recherche active de compromis. Je veux qu'ensemble, nous redonnions un sens et une vertu au mot « compromis », depuis trop longtemps oublié dans notre vie politique. Le compromis, ce n'est pas se compromettre, c'est accepter chacun de faire un pas vers l'autre. Cela ne signifie nullement l'effacement de nos différences ou le renoncement à nos convictions.
Cédric Angelbert, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint de Philomag. Que vous inspirent ces propos d'Elisabeth Borne en 2022 lors de son discours de politique générale ?
Bah, sur le fond, il est difficile d'être contre. C'est pas un propos très très incisif qu'on a entendu là. Évidemment qu'on a tous envie que les choses avancent et d'être d'accord. La question, c'est de savoir, faut-il faire la paix à tout prix? En gros, quand on dit faut-il faire des compromis pour avoir la paix, c'est toute paix est-elle bonne à prendre? Il y a une philosophe qui s'appelle Chantal Mouffe qui a inspiré beaucoup le LFI, le groupe LFI.
La France Insoumise.
Oui, la France Insoumise, qui parle de l'illusion du consensus. Elle le distingue donc du compromis en disant que la politique démocratique ne peut pas se limiter à établir des compromis entre les intérêts et les valeurs ou à engager une délibération sur le bien commun. Et surtout, c'est là où c'est important, elle doit aussi s'intéresser aux désirs et aux rêves des gens. Alors, on ne peut pas accepter n'importe quel compromis sous prétexte qu'il faut avancer la politique économique. Il y a parfois des valeurs et des désirs qui sont effectivement plus importants qu'une paix injuste, par exemple.
Revenons au couple, Cécilia Como, Claude Parizeau. Le compromis dans le couple, c'est l'épreuve de l'altérité. Hein. C'est la découverte que l'autre ne correspond pas exactement à notre idéal, Cécilia Como.
Alors ça, je crois que c'est infranchissable, effectivement, même quand on essaye par des tours et des détours. Alors, juste, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, même dans le couple, il y a compromis et compromis. Et en fait, le bon compromis, c'est ce qui va être acceptable pour moi. Mais vraiment au sens acceptable. J'entends trop de gens me dire c'est pas acceptable ou c'est intolérable. Et souvent, je les remets en fait face à cette dissonance cognitive en leur disant bah, si, ça l'est, puisque vous l'acceptez. Et c'est là où ça devient en fait un problème intra-psychique, ce conflit entre ça n'est pas acceptable et pourtant j'ai accepté. Donc il y a effectivement, pour moi, le bon compromis est celui où j'adhère dans l'acceptation. Ça me va bien. Et pour revenir sur ce que vous disiez, Ali, mais je crois que les arrangements ou les compromis dans toutes les relations qui incluent une personne en plus que moi-même sont absolument obligatoires, je veux dire, entre frères et sœurs, dans le couple. Les colocataires, c'est la même chose. Si vous arrivez à 3h du matin en hurlant dans votre téléphone parce que vous êtes en train de faire une conversation, il y a de fortes chances qu'on vienne vous dire le lendemain, écoute, va falloir t'arranger. Quand on vit avec quelqu'un qui adore écouter la musique à fond, mais qu'on a soit des cours à réviser, soit qu'on a envie de faire 30 minutes de méditation, faut bien s'arranger. Dans la vie, il faut toujours s'arranger. Il n'y a pas de couple sans arrangement. Il n'y a pas de couple sans décentration. Parce que l'arrangement, c'est quand même la capacité à se décentrer, à relever la tête de son nombril pour voir que je ne suis pas tout seul. Donc, en ça, oui, c'est une évidence que si on ne veut pas s'arranger, je dis souvent, alors c'est incompatible avec le couple.
Claude Parizeau.
Il y a souvent la peur de perdre des choses quand il y a un arrangement, et ça dépend aussi de la personnalité, en tout cas dans le couple, dans la pratique que j'utilise, la méthode Imago, c'est le problème n'est pas le problème. Et c'est ça que ça aide, c'est-à-dire de voir le problème. Si on reste sur le problème il va se déplacer de toute façon, et c'est une autre lutte de pouvoir. Pour moi, ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a en dessous à chaque fois. Et on parle d'une chaussette qui traîne, par exemple, et on va voir que c'est juste, ça va être en lien avec le fait qu'on était transparent, et que le fait de le répéter, ben, ça réveille la transparence qu'on ressentait quand on était enfant. Et une fois qu'on écoute vraiment l'autre, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de répondre, parce que très souvent, quand je regarde par exemple l'Assemblée nationale, et j'ai regardé quand j'étais petit, j'ai abandonné, quand je les vois, il n'y en a pas un qui laisse finir une phrase, ils n'essayent pas de s'écouter. Le but, c'est d'apprendre, dans le couple, en tout cas c'est ça qu'on essaye de faire, c'est d'écouter jusqu'au bout la vérité de l'autre, parce que les deux ont une vérité, je veux dire, on n'est pas là, on n'essaye pas de... les couples, en tout cas, n'essayent pas de vouloir avoir raison à tout prix, bien que, parfois, mais surtout, c'est que si on apprend à s'écouter, on voit qu'on a chacun notre vérité et que souvent, eh bien, on veut la même chose. Mais très souvent, ce qui est difficile, c'est qu'on ne va pas, on ne s'écoute pas vraiment.
Petite parenthèse, c'est quoi la méthode Imago, Claude Parizeau ?
Oui, la méthode Imago, c'est une méthode où en fait, c'est nous, on est là pour mettre la sécurité. Les couples sont face à face. Il y en a un qui parle, qui fait des phrases courtes, et l'autre va faire juste le miroir de ce qu'il a entendu pour vérifier déjà qu'on est sur la même longueur d'onde. Parce que très souvent, il y en a un qui parle. Souvent, on va vouloir répondre et on est déjà plus en phase avec l'autre. Donc, on apprend vraiment à se connecter par les cœurs, et on parle de cœur à cœur plutôt que de tête à tête, et souvent dans le coup, par exemple, il y en a un qui est plus rationnel, l'autre est plus émotionnel, on se rejoint jamais. Donc déjà, on va les mettre au même niveau, c'est-à-dire les parler au niveau du cœur.
J'imagine la méthode Imago à l'Assemblée nationale. Cédric Angelbert.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être deux choses à préciser vis-à-vis de ces questions-là, c'est que la première chose, c'est qu'un compromis honnête, si on veut le qualifier comme ça, est celui qui ne camoufle pas les conflits. Il reste présent et identifié. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule forme de compromis. Il y a plein de façons de faire des compromis. Il y a des compromis où on échange des intérêts mutuels. Il y a des compromis où Par exemple, on pourrait changer le sujet même du débat initial. C'est ce qu'on a fait, nous, dans un article de Philosophie Magazine. On partait sur des questions sur lesquelles deux personnes n'étaient pas d'accord. Et au final, on a changé le débat initial. Et puis, on a trouvé un accord en changeant ça. Donc, en fait, il faut être imaginatif dans le compromis. C'est ça qui est intéressant. Et pour rejoindre la question du couple, on a fait aussi un entretien, enfin une enquête, auprès d'une pratique qui se développe beaucoup, notamment en Belgique, mais aussi en France, qui s'appelle le droit collaboratif. Où l'idée c'était que les gens s'écharpaient au moment du divorce notamment, mais ça peut être aussi pour des questions entre deux associés par exemple dans une entreprise, et que c'était parce que les conflits n'avaient pas bien été identifiés au départ, c'est-à-dire que les gens s'écharpaient par exemple sur un bien, sur une maison, mais c'était pas vraiment la maison le sujet, c'était peut-être les enfants, c'était peut-être l'attachement sentimental à ce bien, c'était peut-être une question d'argent, d'inquiétude pour l'avenir, et que finalement, en mettant ça au clair, les avocats gagnaient du temps, gagnaient de l'énergie aussi, parce que psychiquement c'était très épuisant pour les parties qui s'écharpaient, mais pour les avocats eux-mêmes. Et donc, ils ont trouvé là, dans le droit collaboratif, une manière de résoudre des conflits par une forme de compromis qui est beaucoup plus économique à tout point de vue.
Claude Parizeau.
Oui, c'est vraiment ça. Et vous dites une chose aussi qui est importante, là, qui me venait, c'est de dire la vérité, se dire quand on dit tout. Et dans le couple, souvent, on ne va pas dire certaines choses de peur d'être rejeté, abandonné. Après, il y a toutes les blessures, trahi, humilié, etc. Donc, souvent, on ne le dit pas. Et c'est ça qui va nous éloigner. C'est le fait de ne pas dire toute la vérité. Donc, je rejoins vraiment ce qu'il dit.
Je ne suis pas sûr, Cécile Acomo, que vous soyez une adepte de la transparence.
Non, parce que je dis souvent aux gens qui veulent tout savoir, la première question, c'est êtes-vous prêt à tout entendre ? Et c'est pas vrai, on n'est pas prêt à tout entendre. Donc c'est compliqué de vouloir de la vérité quand derrière, ça peut aussi d'ailleurs se retourner sur la personne qui a dit.
Claude Parizeau.
Non mais bien sûr que c'est tout à fait vrai aussi, et c'est vrai que se retourner, nous c'est partie du cadre qu'on met, c'est-à-dire que quand on est dans ce dialogue-là, le but c'est de se sentir assez en sécurité pour dire vraiment sa vérité, et la personne après, en dehors de ce dialogue-là, ne revient pas sur le sujet, parce que le sujet n'est pas le sujet, sinon ça peut être retourné, et puis on peut même manipuler avec ça. Donc il y a vraiment toute une structure, dans cette approche, il y a vraiment une structure, et il y a un travail aussi à la maison qu'on donne à faire.
Cédric Angelbert.
Peut-être si on veut effectivement élargir un petit peu la question du compromis. En dehors du couple, on peut reprendre ces questions-là. L'idée, c'est du cadre, j'entends, c'est-à-dire qu'il faut effectivement un cadre, on le voit bien dans les questions géopolitiques. Si les interlocuteurs ne sont pas prêts à faire la paix, ou s'il n'y a pas derrière une forme d'honnêteté dans le désir de trouver la paix, on peut repenser encore une fois au cas Poutine, mais aussi au cas Trump, c'est-à-dire aujourd'hui, le gouvernement français va voir Donald Trump, essayer de négocier avec lui, de faire ami-ami, en même temps de poser ses limites. On voit que Macron a essayé de dire, voilà, les sujets sur lesquels il n'était pas d'accord. Mais si en face, Donald Trump n'a pas du tout envie de négocier, n'a pas du tout envie de chercher un compromis, c'est vrai que là, le cadre n'est pas présent pour y aboutir.
Dans un couple, il peut arriver que l'un fasse plus de compromis que l'autre, une équation déséquilibrée qui transforme le compromis en sacrifice. Cécilia Como, oui. Et cela peut évidemment créer des rancœurs à moyen et long terme.
Mais ça crée, et pour rebondir sur ce que disait Cédric, justement, si dans le compromis tel que on est en train de le vivre avec Zelensky, il accepte un sacrifice. Dans le couple, ça ne marche pas comme ça très longtemps. C'est-à-dire que tous les sacrifices se payent. Je dis souvent, ils sont là les vieux dossiers. Et donc, quand on fait un sacrifice, on attend un retour. Il n'y a pas de sacrifice dans le vide. Et le problème, c'est quand le retour n'arrive pas, ou quand on se sépare et qu'on se fait quitter, là, ça déclenche une colère et une haine au nom des arrangements / sacrifices qu'on a fait.
Il ne faut pas oublier que de façon plus ou moins consciente peut s'établir une comptabilité. J'ai fait plus de compromis que toi, j'ai fait plus de sacrifices que toi. Quelle est la frontière d'ailleurs entre compromis et sacrifice ?
Le sacrifice, c'est ce qui me coûte. Ce qui me coûte vraiment, comme je dis souvent aux gens, j'aime bien les analogies, je leur dis, regardez, vous êtes droitière, vous pourriez me dire, écoutez, pour aller dans le couple, j'avais pas besoin de mon bras gauche, ça m'embarrassait, et mon conjoint, il n'aimait pas. Alors, je l'ai enlevé, et je me suis dit au début, c'est pas bête, ça me sert pas tellement le bras gauche, moi, je suis droitière. Sauf qu'au bout d'un moment, les années passant, vous vous êtes rendu compte que ça pouvait servir, un second bras. Et donc, il est là, le sacrifice, de dire, en fait, je t'en veux. Alors, c'est, on en revient à la colère vis-à-vis de soi qu'on projette sur l'autre, c'est que on doit, en fait, on s'en veut à nous d'avoir fait un sacrifice qui était trop coûteux, justement pour garder l'autre. Elle est là, la différence, et oui, les sacrifices sont toujours faits contre un retour, et moi je dis toujours, il n'y a rien de plus aléatoire qu'un retour. Soit vous faites un don, et comme ça on oublie, mais si vous êtes en train de générer une dette, vous pouvez être sûr qu'elle vous reviendra dans la figure.
Claude Parizeau.
Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'un compromis, ou moi j'appelle ça les ententes, c'est on fait le moins de sacrifices possible. C'est la différence. Mais c'est vrai que le sacrifice, moi je mets la soumission, c'est-à-dire que derrière, si je me sacrifie, il y a un endroit où je me soumets. Et la soumission, c'est quelque chose qui, c'est comme un fil qui se tend. Au fur et à mesure des années, moi je connais des couples qui viennent, s'ils ont connu la soumission enfant, ils se soumettent aussi dans leur relation plus tard, ça a une limite. C'est peut-être le seul mécanisme de défense que nous avons qui, pour moi, a une limite dans le temps. C'est-à-dire que ça peut être au bout de 20 ans, 30 ans, quand ça lâche, quand la personne n'a plus envie de se soumettre, on parlait tout à l'heure en off avec des personnes même de 80 ans, quand elles en peuvent plus, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a une colère immense contre l'autre qui va être générée, sauf que c'est pas contre l'autre, c'est contre soi, ce que vient d'expliquer Cécilia, c'est-à-dire la colère contre soi d'avoir trop longtemps accepté quelque chose qui n'était pas acceptable dans notre système.
Cédric Angelbert.
Oui, alors d'un point de vue philosophique, pour y revenir, il y a un philosophe qui s'appelle, et sociologue qui s'appelle Max Weber, qui peut-être place les mots sur cette difficulté de trouver une ligne de crête. Il parle de l'éthique de la conviction et de l'éthique de la responsabilité. Donc l'éthique de la responsabilité, c'est notamment dans l'engagement politique, essayer de trouver des accords, essayer de trouver des moyens de parvenir à la paix. Et l'éthique de la conviction, c'est savoir sur quoi on tient, quelle est notre colonne vertébrale. Et au départ, on a l'impression dans le texte qu'il oppose un peu ces deux notions-là, mais en fait, il les réunit à la fin du texte en disant c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il prend cet exemple d'un vieil homme qui aurait cherché dans l'éthique de la responsabilité à faire des accords, à s'organiser pour que la vie politique soit possible dans une communauté où on n'a pas tous les mêmes valeurs, mais qui à un moment dirait « je ne peux pas faire autrement, je m'arrête ici ». Et c'est l'idée « je m'arrête ici », c'est là la conviction. C'est-à-dire qu'il y a un moment, effectivement, on sait que si on fait un pas supplémentaire, non seulement l'accord qu'on va trouver sera pas tenable parce qu'on sera un peu mécontent, ce sera peut-être sacrifié, on aura trop donné. Et de toute façon, comme on sera pas, cet accord sera pas viable, nous on va s'y perdre aussi, on aura perdu sur les deux plans, on se sera corrompu en quelque sorte soi-même, on se sera compromis au profit d'une paix précaire. Donc,
Une série met en scène plusieurs couples qui se disputent beaucoup et font de temps en temps des compromis. C'est Scènes de ménage, diffusée sur M6, Scènes de ménage qui fête ses 15 ans. Une série diffusée tous les soirs à 20h30 sur M6.
Attends, Doudou, vas-y.
Quoi ?
Mets ça en dessous. C'est pour récupérer l'eau, comme ça on la recycle, on arrose les plantes avec.
Ah,
mais Doudou, non, c'est important de recycler et de moins gâcher. Donc voilà, je sais que c'est chiant, hein, je sais que ça demande des efforts.
Non mais c'est même pas ça, c'est le côté bricole, en fait.
Mais quoi ?
Bah, si c'est le côté récup avec ta petite bassine, là, dans un double vase, ça cadre pas, tu vois. Moi, je veux bien faire des efforts, mais faut que ça vienne des deux côtés.
Mais écoute, je sais pas, on pourrait installer un récupérateur d'eau. Mais
ah, bon. Tu vois, déjà, il y a un nom, là, ça sonne bien, ça sent la machine, récupérateur d'eau. Alors, comment ça se passe ? Vas-y, raconte.
Bah, écoute, on appelle une entreprise.
Une entreprise, ça, c'est un joli nom.
Voilà, et après, bah, ils font un devis. Mais ça coûte une blinde, Doudou, je te préviens.
Eh ben, voilà ! Tu m'as convaincu, tu vois qu'on peut s'entendre, l'écologie et moi. Alors tu me donnes un numéro, puis moi je me débarrasse de cette merde. Voilà.
Et nous accueillons Karimada. Bonjour Karimada.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur depuis de longues années dans Scènes de ménage. Racontez-nous en quelques mots Scènes de ménage pour celles et ceux qui ne l'auraient jamais vu.
Scènes de ménage, c'est on parle d'amour. Bien sûr, enfin, ça c'est le fond qui est derrière, mais à travers justement des scènes de ménage, c'est-à-dire des engueulades. Et si je veux faire un petit lien avec votre émission, c'est ces engueulades, c'est le point justement d'orgue au moment où le compromis coince. Et c'est à ces endroits-là qu'on, que nous on évolue et qu'on travaille et qu'on qu'on explore en fait toute la nature humaine et la nature du couple.
Or la grande qualité de la série, c'est la justesse d'écriture alliée à de formidables comédiens au grand talent comique. On peut citer Marion Gamme, Gérard Hernandez, Grégoire Bonnet, Valérie Carcinti, Claire Schust, Vinnie Dargaud, Elodie Poux et tous les autres. Désolé de ne pas tous les citer, ils sont tous excellents. Diriez-vous que tous ces personnages auxquels le public s'est attaché depuis au moins une quinzaine d'années sont des adeptes du compromis?
Mais fatalement, c'est-à-dire que quand un couple dure, je pense que la longévité d'un couple, c'est aussi le compromis. C'est-à-dire que le compromis, c'est je te donne un petit peu de... Je vais vers toi, je fais un pas vers toi, mais tu dois faire un pas vers moi. Mmh. Et on explore ça en permanence. C'est-à-dire que nos personnages sont constamment en train d'être dans le compromis. Et d'ailleurs, on voit souvent nos personnages changer de casquette. C'est-à-dire que nous, on parle dans le Vis Comica, on parle de comme le clown, c'est-à-dire l'Auguste et le clown blanc qui est la loi, qui est celui qui ramène le rabat-joie, on va dire. Et le clown, l'Auguste, c'est celui qui fait rire, hein, qui ramasse souvent les rires. Et ben, au début, on construit le couple avec un Auguste, un clown blanc, mais souvent, il se passe la casquette. D'un coup, l'un est l'Auguste, l'autre est le clown blanc. Donc, voilà, on est bien évidemment constamment dans ces schémas-là. Et on va explorer des choses que nous, tous, auteurs, réalisateurs, acteurs, vivons dans nos vies de tous les jours, dans nos couples. Et cette difficulté à dealer avec la liberté de chacun, notre propre liberté et nos envies et puis nos frustrations, nos névroses. Voilà, c'est tout ça avec... on doit faire un savant mélange, cocktail, et puis surtout faire rire. C'est ça ce qui fait...
Et ce qui fait rire, et le carburant tout de même de scènes de ménage depuis une quinzaine d'années, c'est quand même pas mal les disputes qui sont très savoureuses dans votre série.
Bien sûr. Mais ce qui est drôle dans les disputes, mais c'est comme dans la vie, c'est que le spectateur en fait rit parce qu'il reconnaît son conjoint, son fils, sa mère, son ami, son collègue de bureau. Mais quelquefois, il rit sans le savoir de lui aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on deal aussi avec le déni. C'est-à-dire qu'on est dans le déni, on se dispute. Alors c'est ça ce qui nous fait marrer. C'est-à-dire c'est vraiment d'aller dans ce rire qui est provoqué, presque un rire ventral, parce que d'un coup, c'est tellement la vérité que on en rit, parce que on peut pas faire autrement, sinon on en pleure.
Karimada, en guise de conclusion, avec toutes ces disputes savoureuses dans Scènes de ménage depuis 15 ans, qu'est-ce qui fait la longévité de tous ces couples?
L'amour. L'amour profond, merci. Le respect, je pense vraiment au fond, c'est l'amour, la tendresse, le respect, l'envie de prendre soin de l'autre, tout en faisant des compromis, mais aussi en ne lâchant pas trop non plus. C'est pas de la soumission le compromis, c'est plus un deal, c'est un deal d'un couple à un autre, c'est d'une personne à un autre dans le couple, et donc oui, c'est l'amour qui nous fait ça. Et puis... de parler aussi. C'est-à-dire que quelquefois, un conflit est quelque part un peu sain. C'est-à-dire qu'il met en exergue un sujet profond, il permet de crever l'abcès, de dire les choses. Après, il faut savoir les dire, il faut trouver le moment pour les dire aussi.
J'ai l'impression que Karimada a lu votre livre, Cécilia Como.
Mais on dirait. Ou alors, il était fait pour... je voulais juste je dire...
Non, on travaille forcément quand on est metteur en scène ou quand on est auteur ou comédien, on travaille sur la nature humaine. Donc on a un petit peu un regard un peu aussi sociologique ou je sais pas, d'anthropologie, on va dire, sur la nature humaine et la nature du couple, là, en l'occurrence.
Oui, je voulais dire aussi à Karimada que ce qui est effectivement le plus drôle, c'est bien le frottement de l'altérité, l'harmonie de l'altérité. Finalement, il n'y a pas grand-chose à dire, tout le monde est d'accord. Il y a quelque chose d'assez écrété. Alors que le frottement de l'altérité, la négociation autour de l'arrangement, là, effectivement, c'est un ressort inépuisable pour l'humour. Et puis juste, malheureusement, l'amour ne suffit pas. J'aimerais que ça suffise, mais je pense que ce que disait juste derrière Karimada est juste, il faut nécessairement, alors peut-être au nom de l'amour, hein, mais des arrangements.
Oui, moi, Claude Parizeau.
C'est exactement ça, c'est qu'on a eu la même ressenti. Et l'amour, oui, et c'est une décision. En fait, l'amour, tout à l'heure, on le disait aussi pour si les chefs d'État, si l'autre ne veut pas, on ne peut pas faire tout seul. Donc, c'est vraiment une décision de donner à l'autre ce dont il a le plus envie, besoin. C'est ça, l'amour aussi, c'est de rester dans le lien.
Cédric Angelbert.
Oui, juste d'un mot, je ne sais pas s'il faut parler d'amour, mais en tout cas de désir. C'est vrai que pour nouer un compromis, il faut avoir le désir de chercher une forme de paix.
Merci beaucoup Karim Ada, réalisateur de Scènes de ménage qu'on peut retrouver tous les soirs à 20h30 sur M6, et puis on peut voir en replay le Prime de lundi soir qui fête les 15 ans de tous ces couples. Merci beaucoup.
Et qui célèbre l'amour puisque c'est un mariage, c'est autour d'un mariage. Exact. On se retrouve tous pour la première fois.
Pour la première fois, oui, on retrouve tous les personnages pour la première fois. Merci beaucoup Karim.
Merci
beaucoup. Il est 10h43, l'heure de retrouver Ma vie de parent de Gonelle Boulay.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut. Merde.
Alors, Gonelle Boulay, en bonne épouse, en bonne mère de famille, le compromis, c'est devenu pour vous une seconde peau.
Comment vous dire, Ali? D'abord, il faut savoir que si je n'avais pas un minimum intégré le concept de compromis, je vivrais encore actuellement dans une sorte de bouge, dans lequel, si d'aventure je vous invitais chez moi, vous auriez bien du mal à distinguer la cuisine de la chambre de la salle de bain et la salle de bain du salon. Oui, il fut un temps où traverser mon appartement relevait de la mission quasi impossible. Un mix entre Koh-Lanta et Interville, alors les vachettes en moins, mais le loisir de s'empaler le talon sur une paire de ciseaux ou de rester le pied collé dans une casserole de vieille semoule en plus. Non, vraiment, pour dégoter mon mari, on ne peut pas dire que j'ai misé sur mon côté fait du logis. Ce que je m'empresse de rappeler quand on s'engueule, c'est pas comme si j'avais menti sur la marchandise.
Je vous le confirme, Gonelle, on n'aurait pas pu vivre ensemble. Hein, le côté Koh-Lanta de votre appartement, bon bref. Il n'en reste pas moins, Gonelle, que le compromis n'est pas toujours facile à pratiquer dans la vie de couple.
Oh là là, non. Enfin, je dis ça, mais peut-être qu'il existe des gens chez qui le sens du compromis est inné, genre des enfants de Laurent Berger et Michel Barnier, vous voyez. Sauf que, pour beaucoup d'entre nous, une fois passée la folie des débuts amoureux qui font que, comme Bridget Jones, oui, au début, tu trouves ça craquant que Darcy plie son caleçon avant de faire l'amour, et qu'inversement, Darcy trouve craquant ton rôti de veau cramé. Bon, une fois ce filtre d'amour un chouille estompé, le goût pour l'altérité s'efface un peu et la nature individualiste des uns et des autres ressurgit. Chacun souhaite alors un peu imposer à l'autre son mode de vie.
Et c'est là que ça se complique évidemment.
Oui. Disons qu'à moins que l'un des deux ne règne en maître, fantasme de toute puissance présent en chacun de nous, la vie à plusieurs nécessite forcément des mésaménagements. Gestion de l'argent, de l'espace, temps passé en couple, en famille, place des amis, du travail, tâches domestiques, projet de vie, éducation des enfants. De façon explicite ou implicite, le couple est obligé d'accorder ses violons. Et c'est là que ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps pour agir en bien sûr. Car oui, qui dit bon compromis, dit bonne stratégie. Et voici la mienne. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Petit 1, évaluer le degré d'importance de ce sujet pour moi. Est-ce que c'est vital, très important ou finalement pas tant que ça? Petit 2, si c'est rangé dans la catégorie vital et très important, pourquoi? Pourquoi j'ai tant besoin de ça pour bien vivre? Alors je vous préviens, c'est pas toujours facile de comprendre pourquoi vous vous faites un point d'honneur à être parfait au boulot ou à accumuler une pile de bouquins de 2 mètres de haut à la tête de votre lit. Allô, Dr Freud. Alors personnellement, quand ça me résiste, je me dis bon, si je meurs ce soir, est-ce que ce sujet paraîtra dans mes 3 dernières pensées? Alors c'est une méthode de discernement certes un peu radicale, mais très efficace. Peut-être que vous avez raison, ce sentiment est le signal que cela appartient à votre socle vital. Et si les autres l'ébranle trop, vous êtes profondément mal et ça, il faut pouvoir l'expliquer à votre entourage autrement qu'en criant, pleurant ou déprimant. 3. Enfin, demander à l'autre de faire le même travail de comprendre ses besoins profonds et donc les éventuels terrains de négo possibles. Car comme le dit le philosophe Emmanuel Lévinas, le partage du monde n'est possible qu'à partir du moment où l'on s'en décentre de soi. Donc après, il reste toujours la bonne vieille méthode à la Trump, hein. Impose tes choix, le reste suivra. Mais en dehors de considérations capillaires, qui aujourd'hui a vraiment envie de ressembler à Trump?
Cécilia Como.
Excellent. Alors franchement, vos conseils sont juste parfaits.
Elle va se reconvertir en thérapeute de couple.
Non, alors déjà, je vais essayer de les appliquer pour de vrai.
Alors, premièrement, j'évalue. Évidemment, c'est effectivement la première chose. C'est est-ce que c'est réellement important pour moi? Alors, en général, je dis aux gens, faites simple. C'est OK ou c'est pas OK pour vous? Et c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs où bon, c'est bon. Donc, d'évaluer l'importance. Deuxièmement, je trouve ça effectivement très juste de dire pourquoi ça a autant d'importance. Et alors, la cerise sur le gâteau, demander à l'autre de faire le même travail, mais enfin, si tout le monde suivait ces conseils-là, ah oui, il y aurait la paix dans le monde.
C'est de la théorie, hein, quand même.
Oui, Parisien. Ah, mais moi, c'est exactement ça. Quand j'ai entendu ça, je me dis, ah, Inch'Allah, ce serait vraiment ça. C'est-à-dire que, bah, moi, c'est un peu mon cheval de bataille, je suis un homme, et c'est vrai que nous, les hommes, par exemple, d'aller à l'intérieur, c'est pas le truc qu'on nous apprend à faire. Mais par contre, moi, c'est ce que je dis dans les stages, je dis, vous n'avez pas d'autre choix, sinon vous allez projeter sur votre partenaire systématiquement ce que vous voulez pas regarder à l'intérieur. Mais comprendre ses choix profonds, comprendre à l'intérieur, il faut déjà sentir ses besoins, sentir ce qui se passe à l'intérieur. Et la plupart ne sentent pas. Donc.
Ils ont tous envie de réagir à votre chronique, Gwenaëlle Boulay, Cédric Angelbert.
Oui, bah oui, c'est très, très bien vu. On a fait un petit test à la fin du journal, où, un peu plus personnel, où on essaie de voir en gros à quoi on tient. Parce que c'est ça, au fond, la question. Et on a identifié trois profils. L'un serait pragmatique, donc en gros, il tient à son petit confort, à la paix, au fait que les choses soient bien, bien tranquilles. Et donc, il est prêt à faire des petites compromissions. Ça le, voilà, ça le dérange pas trop. Il y aurait une formule plus grand seigneur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une conscience de soi assez, assez haute. Il a pas envie d'être abîmé dans l'image qu'il a de lui-même. Et puis, il y aurait l'intègre. C'est quelqu'un qui a des principes très, très forts sur lesquels il n'est pas prêt à déroger. Donc, la question, c'est de savoir... Voilà, à qui on ressemble le plus et puis finalement à quoi on tient.
Faites le test dans Philosophie Magazine. Tous les épisodes de Ma vie de parents de Gwenaëlle Boulay sont à retrouver sur l'appli Radio France.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi. Sur France Inter.
Et ce matin, faut-il toujours faire des compromis, notamment dans le couple? C'est notre question ce matin avec le mensuel Philosophie Magazine. Je vous propose d'écouter le youtubeur Ben Never dans Entre potes.
T'as pas forcément l'impression que tu fais un compromis quand l'autre va pas bien ou quand vous allez pas bien et que vous avez besoin de vous retrouver. C'est un truc, je pense, qui se fait naturellement. Et si en face de toi, t'as une personne qui le comprend pas du tout, qui fait aucun effort, dans ces cas-là... Ciao, quoi.
Ouais. Puis j'ai l'impression quand t'es dans une relation saine, les compromis que tu peux faire... C'est pour le bien du couple, donc c'est souvent même pour toi-même être une meilleure personne. Mmh. Moi, je vois les compromis que j'ai pu faire, c'est des trucs sur les gestions de mes émotions, sur des trucs comme ça. Et en fait, c'était que des trucs qui allaient me faire du bien à moi, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, si toi-même, t'es plus heureux individuellement, si t'es dans un couple sain, bah, c'est que c'est censé rendre ton couple aussi plus heureux, quoi. Je pense que là où ça peut devenir malsain, c'est quand t'as en effet la sensation d'une contrainte. Et là, soit ça veut dire que la personne avec toi, elle est en train d'essayer de te changer.
Ah, c'est ça.
Ou d'essayer de dire non, mais d'avoir la main sur toi et tout. Et là, tu te rends compte que du coup, bah, t'es moins heureux.
Entre potes de Ben Never, Cécilia Como, je rappelle que vous êtes psychanalyste, sexologue et thérapeute de couple. Réaction à ce qui vient d'être dit?
Le mot contrainte. Je sais bien que ce mot-là, il déplaît intensément et dès qu'on le voit, on fait demi-tour. Le problème, c'est que, évidemment que c'est des contraintes. C'est des contraintes de vivre avec quelqu'un. Je reprends mon exemple, colocataire ou pas, on a des contraintes. Donc en couple, évidemment qu'il y a des contraintes. Notre liberté est dépendante de l'impact que met... Enfin, disons que, je vais le dire plus simplement, dès lors que ce que je fais impacte l'autre... Alors forcément, il faut que je m'interroge et il y aura une contrainte pour moi. Ça peut pas fonctionner autrement. Si vous êtes en couple et puis tous les soirs, vous rentrez dîner à 20h, et puis, parce que ça, c'est des situations que j'entends, à 19h30, vous rencontrez un pote dans la rue et finalement, on va aller boire un coup et finalement, j'arriverai à 23h, bah évidemment que vous êtes contraint de prévenir. Vous voyez, il y en a qui le font pas parce que justement, j'ai été pris dans le truc, contraint de prévenir parce que il y a quelqu'un qui vous attend en fait. Donc vivre à deux, malheureusement, pour beaucoup de gens, on ne peut pas s'affranchir de certaines contraintes. Et toute la difficulté, c'est de visualiser lesquelles, le poids qu'elles ont. Et encore une fois, ce qui est acceptable, le compromis, c'est pas facile. C'est une évidence que c'est pas facile. Donc, ce qui est dommage, c'est que effectivement, ce que je veux juste dire, c'est qu'il n'y a pas toujours besoin d'un tiers. Voilà, parce qu'on a beaucoup parlé des tiers qui viennent là, etc. Les conseils qui ont été donnés...
Par Gwenaëlle Boulay.
Exactement, par Gwenaëlle, sont déjà en soi un bon début pour gérer ça correctement.
Attention, vous avez de la concurrence en thérapie de couple, là, oui. Claude Parizeau avec Gwenaëlle Boulay.
Non, c'est que c'est du bon sens, ce que j'ai entendu, c'est vraiment ça. Oui, les contraintes, forcément, il y en a, mais c'est juste de prendre en compte l'autre. C'est juste ça. Et c'est vrai que quand on rentre plus tard et qu'on ne prend pas en compte, là, c'est des blessures de se sentir transparent, pas aimé, tout ça. C'est toujours tout ce qui est en dessous. Et l'importance, même dans l'exercice. J'ai bien aimé l'exemple qui a été donné à un moment donné. C'était si moi, j'ai besoin d'être seul avec moi, je n'arrive pas à être en interaction, mais qu'on nous oblige, ça va forcément aller au clash. Quoi. C'est juste d'écouter, mais pourquoi tu as besoin, plutôt que de le prendre pour soi, par exemple, ah, tu n'as pas envie d'être avec moi, c'est essayer juste de comprendre l'autre, mais pourquoi l'autre a besoin d'un peu de temps. Si je prends, et si c'est sain, j'aimais bien aussi comment c'était dit, si la relation est saine, ça va passer. Si ça devient une lutte de pouvoir, là, ça veut dire qu'il y a d'autres choses en dessous qui sont encore plus compliquées et qu'il va falloir nettoyer aussi.
Cédric Angelbert de Philomag, pour terminer, quand on souhaite régler un conflit sans basculer dans la compromission, vous proposez trois garde-fous. Avoir le courage de la nuance, faire preuve d'intégrité et tenir ses promesses. Revenez sur ces trois garde-fous pour parvenir à un bon compromis.
Alors voilà, effectivement, je me suis posé la question à la fin de cet article de comment faire un compromis sans basculer dans la compromission. Alors le premier peut-être point, c'est de effectivement avoir le courage de la nuance. Et je m'appuie sur Albert Camus pour en parler, en montrant que finalement la nuance n'est pas facile. On le disait, c'est pas facile de faire des compromis. Et ça ne veut pas dire la tiédeur ni la mollesse. Il faut avoir le courage de s'engager à aller chercher. Camus le dit en 1944, « Notre monde n'a pas besoin d'âmes tièdes, il a besoin de cœurs brûlants qui sachent faire à la modération sa juste place. » Donc ça, c'est le premier conseil, avoir ce courage de la nuance, bien que ce ne soit pas facile à faire. La deuxième chose, c'est faire preuve d'intégrité. Et là, je m'appuie plutôt sur un autre auteur qui s'appelle Sartre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se cacher derrière une forme de mauvaise foi. Dire qu'on a des convictions, tout ça pour ne pas s'engager à faire des compromis ou ne pas regarder en gros en face les responsabilités auxquelles on doit assumer, ne pas être un salaud en quelque sorte. Et la troisième chose, c'est tenir ses promesses. Alors ça veut dire deux choses, évidemment s'engager à respecter l'accord qu'on a trouvé, mais ça veut dire aussi tenir des promesses vis-à-vis de soi-même et finalement voir dans l'engagement ce à quoi on tient. Et c'est peut-être là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a dans la méthode du compromis, dans le chemin qui nous permet de parvenir à un accord, la découverte des choses auxquelles on tient vraiment. Et c'est dans ce dialogue, dans cet engagement à deux, qu'on découvre les points qui, pour nous, importent vraiment et sur lesquels on ne sera pas prêt à lâcher. Mais on ne les sait pas forcément a priori. C'est vraiment dans le cours du compromis qu'on les découvre.
Je rappelle ces trois piliers du compromis, selon vous, Cédric Angelbert. Avoir le courage de la nuance, faire preuve d'intégrité et tenir ses promesses. Allez, en quelques secondes, nous arrivons au terme de cette émission. Vos derniers conseils pour parvenir à de bons compromis dans le couple, Claude Parisot.
Oui. Ce qui me vient, j'entendais le mot intégrité, c'est oui, de dire ce qui se passe. Et c'est aussi de reconnaître quand on a tort. Et c'est d'oser se montrer vulnérable. Et là, c'est un autre sujet, mais... Entre faiblesse et vulnérabilité, la vulnérabilité pour moi c'est
vous reviendrez pour ce sujet, Claude Parisot.
J'aime beaucoup ce sujet.
Cécilia Como.
Oui, je reprendrai la notion de acceptable, non acceptable et de bien se situer. Si c'est un peu acceptable, alors c'est dans la catégorie acceptable pour bien visualiser ce qu'il est absolument pas et pas tout mettre comme indispensable, parce qu'alors sinon il y a zéro compromis.
Merci beaucoup Claude Parisot, merci Cécilia Como, merci à notre nouvelle thérapeute de couple, Gwenaëlle Boulay. Merci Cédric.
Bien se foutre de moi.
Merci Cédric Angelbert. Merci, je vous recommande vraiment le dernier numéro de Philosophie Magazine. Faut-il faire des compromis pour avoir la paix en Ukraine, au Proche-Orient et dans nos vies? Demain, on s'intéresse à la chambre. Et oui, quelques conseils pour la rénover et en faire un vrai lieu à soi, à la manière de Virginia Woolf, notamment. À demain.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.